Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour à toutes et à tous et toujours très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de la saison. Et comme chaque année ou presque, je reviendrai sur cette formule qui traverse les siècles et les cultures, témoignant d'ailleurs de l'importance accordée à la liberté, à l'épanouissement et à la douceur de vivre. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et puisque nous sommes en mai, je vais faire une fois de plus ce qui me plaît, à savoir partager avec vous quelques secrets, tout en poussant un léger coup de gueule, une fois de plus me direz-vous, sur une injustice criante, qui touche ce que les spécialistes appellent l'art total, avec une émission ayant pour titre « L'indispensable de l'art total ». Que se passe-t-il derrière le rideau? Et pour ce faire, je commencerai par expliquer ce qui m'incita à choisir ce thème. J'essaierai de faire le point aussi sur ce qu'est l'opéra, bien qu'en ayant déjà beaucoup parlé en février avec l'émission des Indes galantes à la Bastille, où je n'étais pas avare en critique sur les frontières toujours présentes entre l'art savant et l'art populaire, et sur certaines discriminations, malgré les efforts faits sous ce rapport. Puis j'essaierai, principalement, de faire toucher du doigt à tous les auditeurs qui m'écoutent, ce à quoi on ne pense pas forcément lorsqu'on va au spectacle, de quelque nature qu'il soit, depuis la petite pièce de théâtre jouée dans votre commune par une association de bénévoles, à l'écoute d'un concert de l'été, en plein air ou dans une salle dédiée aux spectacles musicaux, en passant par le visionnage d'un documentaire sur un opéra, ce que propose assez souvent d'ailleurs France 4, ou bien encore une grande pièce de théâtre dans un bâtiment d'exception lors de vos vacances, ou, cerise sur le gâteau, un ballet ou un opéra dans ces institutions qui transmettent de génération en génération la culture, ce bien si cher qui risque de faire défaut si nous ne nous y intéressons pas davantage. Et peut-être, le cas échéant, et je le souhaite, provoquer chez certains quelques envies, quelques orientations vers un métier, vers des métiers, plaisir et passion, ce qu'on appelle créer des vocations. Et puisse que ce que l'on entend en ce moment est la pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel, on peut rappeler que la plus célèbre des Habaneras est née en même temps que Ravel. Il s'agit du fameux air de Carmen, « L'amour est un oiseau rebelle », composé par Georges Bizet en 1875. Et c'est avec cette danse au rythme chaloupé que nous poursuivrons. Alors commençons par ce qui me motiva et m'incita à vous proposer ce programme « L'indispensable de l'art total, que se passe-t-il derrière le rideau ?» Alors ce sont deux étapes, séparées l'une de l'autre de près de 60 ans. La première remonte à la fin des années 60. Je fréquentais plus que régulièrement un bar du 2e arrondissement à Paris, où chaque soir, à la même heure, Claude Villemetz, accoudé au comptoir de bois à cajou bien ciré, commandait un dernier glace, un whisky, dans lequel il faisait tournoyer deux glaçons. Après avoir porté le verre à son nez, il me regardait et me disait « Vous avez entendu, Gilles ?» J'ai l'impression d'entendre le rideau se lever. « Oui, le rideau se lève, faut que j'y aille. » Il enquillait alors son verre cul sec et du haut de ses presque 2 mètres, poussait les deux portes battantes du Swindor donnant sur la rue d'Onou et traversait la nuit de l'Opéra pour rejoindre à grandes enjambées le théâtre Yvonne Printemps, le théâtre de la Michaudière, dont il était régisseur. Et ce théâtre de la Michaudière était à plus de 200 mètres, à pied, du bar, et séparé malgré tout par l'avenue de l'Opéra, la rue Saint-Augustin. Comment pouvait-il entendre le rideau du théâtre se lever dans l'atmosphère bruyante et enfumée de ce bar? Et là, naissait en moi pour la première fois ce rapport étrange entre mystère et émerveillement et régisseur. La seconde étape, qui m'incita à préparer cette émission, l'indispensable de l'art total, que se passe-t-il derrière le rideau, étape aussi mystérieuse et merveilleuse, naquit récemment en scrollant sur TikTok. Une jolie femme dont les grands yeux bleus écarquillés zigzaguaient du sol au plafond, sous une longue chevelure ondulée et naturelle, coiffée d'un casque monoral avec micro, casque couvrant une seule de ses oreilles, lui permettant apparemment d'entendre de l'autre les sons environnants. Et sur un bruit de fond présent, une litanie composée d'une série de supplications, une énumération longue et monotone de paroles qui enivrait par sa fréquence et son aspect abracadabrantesque. Propos extrêmement surprenants et incroyables dans leurs enchaînements, ça donnait ça. « Silence, plateau, s'il vous plaît. Sylvain, est-ce que tu peux faire taire l'orchestre? Est-ce que vous êtes là, au son, en vidéo, les électroplateaux, au pupitre, en poursuite ?» Puis elle poursuivait. « À la tournette, Fred, t'es là ? Top, attention pour la tournette. Pour la tournette ? Top. Attention, s'il vous plaît, pour machinerie 2, en même temps que cintre 6, en même temps que vidéo 6, en même temps que la lumière 130. Attention, machinerie 2, vidéo 6, lumière 130. » Attention, lumière 132, lumière 132, top. Attention, s'il vous plaît, pour la lumière 305, lumière 305, top. Attention, s'il vous plaît, pour l'effet pyro en même temps que la lumière 280. La lumière 280 et la pyro. Attention, 4, 3, 2, 1, feu. Attention, un peu plus loin pour la lumière 55 ainsi que la vidéo 45 et le rideau. Lumière 305. Rideau, vidéo et lumière, top. Vous me dites quand le rideau est au sol, on se prépare pour les saluts. Le tout, en faisant virevolter les pages d'une partition annotée de 1000 post-it de couleurs et recouvrant partiellement une console, un grand poste de pilotage surmonté d'un écran. Et là, médusé par cette vidéo, je suis allé en voir d'autres, et j'ai décidé d'en savoir davantage sur cette jeune femme, sur ses prouesses, réalisées avec le sourire et une voix angélique. Et c'est, du moins, ce sont ces découvertes que j'ai eu envie de partager avec vous dans cette émission « L'indispensable de l'art total, que se passe-t-il derrière le rideau ?» Découvertes fascinantes et révoltantes à la fois. Et c'est ces émerveillements et ce coup de gueule qui formeront la trame de ce programme. Vous l'avez certainement compris, nous naviguerons pendant une heure au cœur de ce qu'on appelle l'art total. Mais pas que. Et je pense qu'il serait bien qu'en préambule, je donne la définition de ce qu'on appelle l'art total et pourquoi. Alors quand on parle de l'art total, on parle en fait de l'opéra. On appelle l'opéra l'art total car il combine à la fois la musique, le chant, le théâtre, les arts plastiques, la danse, et parfois même les vidéos et le cinéma, offrant ainsi une expérience artistique complète et immersive. Et dès les premiers pas, sans s'en rendre compte, une personne a donné le top départ aux agents de sécurité ainsi qu'à ceux de l'accueil pour nous faire pénétrer à l'intérieur du bâtiment, puis d'autres pour nous orienter vers nos places. Et tout cela, orchestré du moins à l'Opéra National de Lyon, par Charlotte Goupil-Lebray, la jeune femme dont je vous parlais précédemment, que j'ai contactée et qui s'est prêtée volontiers à répondre à 1000 de mes questions, mais pas que. Effectivement, comme je le disais en préambule, nous allons essayer de voir ensemble tout ce à quoi on ne pense pas forcément lorsqu'on va au spectacle, et de quelque nature que ce soit, depuis la petite pièce de théâtre jouée dans votre commune, à l'écoute de la chorale de votre école, ou d'un concert, en passant par une grande pièce de théâtre, ou un ballet ou un opéra. Et j'espère aussi pouvoir provoquer chez les plus jeunes quelques envies de métier, passion, plaisir, ce qu'on appelle créer des vocations. Alors en attendant, grâce à ces régisseurs et régisseuses, ces grands chefs d'orchestre de ce qui se passe en coulisses et sur scène, nous irons aussi à la rencontre de ces invisibles sans qui rien n'aurait lieu. Et la première personne dont je vais vous parler, qui je pense pourrait s'asseoir sur pas mal de sièges occupés lors d'une représentation, est la toute jeune et resplendissante Charlotte Goupil-Lebré, dont je vais essayer de brosser une esquisse de sa trajectoire, de son parcours, en précisant qu'à ce jour, elle ne cesse de répéter qu'elle est pleinement consciente de la chance qu'elle a de travailler à l'opéra. Charlotte me disait qu'elle eut le bonheur d'avoir été inscrite très jeune à des activités théâtrales et musicales, que ses parents l'emmenèrent dès sa plus tendre enfance voir des spectacles en tout genre, et que ces activités se transformèrent assez vite en passion. Ce qu'elle préférait, c'était les spectacles d'humour musical, genre le quatuor, la framboise frivole, où des musiciens classiques font les idiots avec leurs instruments, en mélangeant les genres et les styles, passant de Mozart au rock'n'roll. Alors ça la faisait beaucoup rire, et c'est ça qu'elle voulait faire. Puis, elle entreprit de faire des études de musique et de théâtre. Et pendant son adolescence, elle eut l'opportunité de rentrer dans les coulisses du théâtre de sa ville. Et c'est là qu'elle découvrit l'univers de l'envers du décor. Car elle pensait, comme beaucoup d'entre nous peut-être, qu'il y avait un technicien qui appuyait sur un bouton pour éclairer la scène et pour l'éteindre à la fin de la représentation. Mais elle put constater de visu qu'il n'en était pas ainsi. Et que dans la cabane régie, il y avait une console lumière, une console son, la poursuite, ce gros projecteur avec lequel on suit le personnage sur la scène, et une multitude d'individus s'activant en coulisses. À 18 ans, son bac en poche, et l'envie d'être metteuse en scène de spectacles musicaux, elle poursuivit ses études en musique et en théâtre. À 20 ans, elle demanda à faire un stage à l'Opéra de Paris, stage qui lui fut accordé à l'Opéra Bastille. Et c'est là qu'elle découvrit vraiment un métier extraordinaire qui deviendra son métier, la régie de scène d'opéra. Un métier, voire une profession, qui consiste, premièrement, à assister à toutes les représentations durant 4-5 semaines, en compagnie du metteur en scène qui crée son spectacle. Le but étant de noter précisément tout ce dont le metteur en scène a besoin, dans les moindres détails, de la position d'une chaise ou d'une bougie sur la table qui doit s'allumer à un moment précis, que sur le fa dièse, les deux murs du décor doivent s'écarter légèrement, permettant à un bel oiseau bleu de descendre par les cintres, pendant qu'un personnage va sortir du sol, dans un effet de fumée blanche devenant doucement rouge sur le si bémol de la mesure d'après. Et c'est riche de toutes ces annotations, portées sur la partition, durant l'ensemble des répétitions, qu'elle va commencer à réfléchir à mille choses pour pouvoir réaliser techniquement les desiderata artistiques du metteur en scène. Où placer les machinistes? Combien de temps avant que les deux murs du décor s'écartent pour qu'ils aient le temps de déverrouiller les sécurités? Ça, c'est tout ce qui se passe avant que le spectacle se produise. Avec, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'obligation d'avoir une formation de musicienne pour savoir lire une partition, compétence propre aux régisseurs et régisseuses d'opéra. Et là commence une organisation précise pour que costumières, couturières, perruquiers, décorateurs, peintres, électriciens, sculpteurs, voiliers, machinistes, cintriers sachent ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire, jusqu'à ce que le spectacle ait lieu. Spectacle connaissant des étapes successives. La couturière étant la première effectuée en costume. Alors elle est appelée ainsi parce que elle permet traditionnellement à la couturière du spectacle d'effectuer les derniers ajustements sur les costumes. Par souci d'équité et de justesse, je tiens à préciser que certains appellent cette représentation la générale. Les personnes autorisées à y assister sont le personnel du théâtre, les amis des comédiens et de l'équipe artistique, mais surtout personne de l'extérieur. Puis arrive la première, la représentation publique du spectacle. Et là, on retrouve ce même terme aussi bien à l'opéra qu'au théâtre. Et c'est à ce moment-là que les choses s'emballent. Le stress commence à monter, toute cette fourmilière est en ébullition. Rappelons qu'à ce moment précis, Charlotte se trouve derrière les pendrillons, côté jardin, c'est-à-dire sur la gauche de la scène, derrière le rideau, à l'abri des regards des spectateurs, mais pouvant voir tout ce qui se passe sur la scène, est relié à toute l'équipe technique qui peut représenter entre 100 et 150 personnes. Et là, ça commence par attention pour la salle au noir, c'est-à-dire baisser les lumières, attention pour l'annonce portable, annonce pour faire éteindre les portables, attention pour l'accord de l'orchestre, attention pour le rideau, suivi de salle au noir, top, rideau, top, et le spectacle commence. La musique, avec les premières battues du chef d'orchestre, et comme vous pouvez l'imaginer, tous les imprévus qui peuvent survenir. Le chanteur n'est pas remonté du maquillage. Le projecteur 130 ne fonctionne plus. En passant par, il y a un malade dans la salle, faut prévenir le médecin de salle. Je trouve pas mon accessoire. Et là, il faut savoir doser les priorités pour que les spectateurs ne se rendent compte de rien. Et maintenant, j'aimerais vous dire, du moins vous lire, le message que Charlotte m'envoya quand elle apprit que j'envisageais de faire une émission sur l'indispensable de l'art total. Quand on parle de spectacle vivant, on parle souvent de ce qu'on voit. Les chanteurs, les comédiens, les musiciens, la scène, les costumes, la lumière. Mais le spectacle vivant, en réalité, commence bien avant ça. Et surtout, il repose sur une quantité de métiers qu'on ne voit presque jamais. Moi, je suis régisseuse de scène. Concrètement, je suis celle qui coordonne tout ce qui se passe sur le plateau. Je donne les tops, je synchronise les effets, je fais le lien entre la musique, les artistes, les décors, la lumière, le son. Je suis à un endroit très précis, au croisement de tout, mais surtout entouré. Autour de moi, il y a une armée. Des machinistes qui montent, déplacent, portent, démontent des décors parfois énormes, parfois instables, souvent très lourds. Des cintriers qui travaillent à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du plateau, dans le noir, avec des contrepoids, des perches, des éléments qui volent au-dessus des artistes. Des électriciens, des électriciennes qui sculptent la lumière, souvent suspendus, souvent de nuit, souvent quand tout le monde dort. Des accessoiristes qui fabriquent, entretiennent, réparent, retrouvent en urgence un objet perdu 30 secondes avant une entrée sur scène. Des costumières, des habilleuses, des perruquiers, des maquilleuses, qui portent les artistes au sens propre comme au figuré. Des régisseurs son, vidéo, plateau, orchestre, chœur. Des personnes à l'administration, à la production, à l'accueil du public, à la billetterie, à la sécurité. Avec une seule personne, on ne peut rien faire. Vraiment rien. À plusieurs, en revanche, on arrive à fabriquer l'improbable. Le spectacle vivant, c'est avant tout ça. Une expérience humaine, collective. On ne vient pas consommer un produit comme on lancerait une série Netflix, seul sur son canapé. On vient partager un moment, respirer ensemble, rire ensemble, parfois être bouleversés ensemble. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ces moments-là sont essentiels. Sur scène, on fabrique de la magie, mais surtout, on fabrique du lien. On invente un espace où, pendant 2 ou 3 heures, on se projette ailleurs, dans un monde parfois plus beau, parfois plus juste, parfois simplement plus sensible. Rien de tout ça ne tient sans le collectif. Et pourtant, Pendant longtemps, on a eu l'impression que ce travail restait invisible, comme si tout allait se faire de soi. Puis, il y a eu la réforme des retraites. À cette période-là, j'ai pris la parole sur scène pour expliquer une réalité concrète. Derrière le rideau, il y avait des collègues qui s'inquiétaient sur leur fin de carrière, des collègues qui gagnaient à peine le SMIG, des collègues avec le dos abîmé à 45 piges, à force de porter des charges lourdes, de travailler dans le noir, dans le bruit, avec des horaires décalés, le soir, la nuit et les week-ends. Et on nous expliquait qu'il faudrait tenir jusqu'à 64 ans. Dans ces conditions-là, c'était très compliqué à entendre. Quand je faisais des prises de parole, la majorité de la salle écoutait. Beaucoup de gens étaient touchés, parfois surpris, parce qu'ils découvraient une réalité qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, il y avait aussi quelques personnes, toujours les mêmes profils, des hommes blancs, plutôt âgés, bien installés, qui criaient, qui insultaient même, qui disaient « on n'est pas là pour ça » ou « retournez travailler » avec des injures plus violentes même. C'était très violent et surtout très révélateur. Parce que dans l'imaginaire collectif, opéra égale argent, opéra égale luxe, donc forcément tout le monde va bien. Sauf que non. L'opéra, comme tout le spectacle vivant, repose sur des travailleurs et des travailleuses, passionnés, mais des gens qui s'usent. C'est aussi à cette période-là qu'on a négocié quelque chose de très fort avec la direction. Que les équipes techniques saluent à la fin des spectacles. Depuis 3 ans maintenant, tous les soirs, machinistes, régisseurs, électriciens, costumières, accessoiristes montent sur scène. Et la réaction du public est incroyable. Les gens applaudissent longtemps. Ils comptent. Ils réalisent le nombre de personnes nécessaires pour que le spectacle existe. Souvent, ils viennent nous voir après. Ils disent « on ne savait pas, on n'imaginait pas ». Ce moment-là a changé beaucoup de choses, pour le public et pour nous aussi. Parce qu'ils remettent une évidence au centre. Le spectacle vivant, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est un collectif. Un équilibre fragile entre des compétences très précises, des corps, des émotions, des humains. Ce que j'essaie de raconter aujourd'hui, dans mes vidéos, dans mon podcast, dans mes projets, c'est simplement rendre visible, dire que la magie ne tombe pas du ciel, qu'elle se fabrique à plusieurs dans l'ombre, et que ces métiers-là ne sont pas accessoires, ils sont indispensables. Et c'est sur un adagio instrumental d'un opéra de Cherubini que j'avais envie de vous lire ce texte. Merci Charlotte pour cet engagement que tu viens de partager avec les auditeurs, ce combat pourrait-on dire que tu mènes au quotidien. Espérons que d'autres opéras, d'autres théâtres suivent ce bel exemple donné par l'Opéra National de Lyon. Ainsi que tous les spectacles d'ailleurs, car me remontent assez souvent les mêmes sons de cloche depuis que je prépare cette émission, sur des ingé-sons, sur des éclairagistes indépendants, maltraités, souvent ignorés par des prétendus stars se produisant en concert. Car, pour moi aussi, comme l'indique la petite affiche de ce programme que j'avais envoyé à Charlotte en préambule, ce qui se trouve derrière le rideau doit aussi se trouver devant. Alors, en attendant, c'est sur le devant de ce programme que je vais continuer en convoquant les différents métiers dont Charlotte vient de nous parler. Le tout observant des interviews qu'elle a obtenues et partagées sur son podcast « Opéra mon amour » dont je laisserai le lien dans l'article sur le site orinoco-podcast. Car, rappelons-le une fois de plus, quand le rideau tombe à la fin du spectacle, les artistes viennent saluer, puis la lumière s'éteint sur le plateau et vous quittez la salle. Mais vous n'avez pas applaudi ceux que vous n'avez pas vus et qui, pourtant, ont contribué par leur travail et leur talent au spectacle que vous venez de voir. Alors, pour faire simple et présenter quelques-uns de ces métiers, On peut dire que ces métiers de l'ombre, ces métiers des coulisses, peuvent se diviser en deux catégories. Tout le personnel de plateau, les électriciens, les machinistes et toute l'équipe, pour la partie purement technique, et pour la partie artistico-technique, on peut compter les maquilleurs, les coiffeurs, les costumières, entre autres. Et je commencerai arbitrairement avec les équipes de plateau et une cintrière. Peut-être en raison du côté invraisemblable et vertigineux de son métier. Et pour en savoir davantage sur les châssis, les trappes, les perches et les passerelles, nous serons quelques instants en compagnie de la jeune Blandine Sarrazin, machiniste cintrière, celle qui voit le spectacle depuis des dizaines de mètres au-dessus de la scène et du haut de ses 25 ans. Celle à qui on doit la levée des rideaux, à la française, s'ouvrant par les deux côtés tout en se levant verticalement, avant de disparaître dans les cintres, ou à l'italienne, s'ouvrant en deux parties, remontant vers les côtés en drapé, formant une succession de plis. Blandine est machiniste cintrière et elle nous raconte la magie de son métier. Métier qu'elle décline toujours au pluriel, car les machinistes, c'est avant tout une équipe qui s'occupe du décor. Et le cintre, d'où le nom de son métier, cintrière, c'est la partie supérieure du cadre de scène. En deux mots, ce que les spectateurs voient, c'est la scène avec les coulisses, de chaque côté, côté cour à droite et côté jardin à gauche, et au fond, ce qu'on appelle le lointain. Alors ces deux termes, cour et jardin, remontent à l'époque où les comédiens de la Comédie française répétaient dans le château du Louvre. Alors d'un côté, il y avait la cour du château, et de l'autre, les jardins des Tuileries. Puis au-dessus, les cintres, formant la partie supérieure de ce qu'on appelle la cage de scène. Allant jusqu'au grill, ce plancher à claire-voie, recevant un grand nombre de poulies permettant la circulation des fils de manœuvre rattachés au décor et aux équipements d'éclairage. Et c'est de cet endroit, perché sur des passerelles entre 20 et 30 mètres au-dessus de la scène, qu'elle appuie, c'est-à-dire qu'elle lève, ou qu'elle charge, c'est-à-dire qu'elle descend, à l'aide de poulies et de la force de ses petits bras, décor et autres éléments du spectacle. Et là, disait-elle, on a vraiment le sentiment de participer à un truc énorme, en offrant tant de rêves. Mais pas que. Quand on se rend compte que si on fait mal un nœud, et on en fait pas mal de nœuds pour accrocher les décors, qui peuvent peser parfois des centaines de kilos, on peut tuer quelqu'un, car en dessous de nous, il y a les chanteurs, les danseurs. Et pour rester un peu sur ces nœuds, c'est qu'historiquement, cette machinerie vient de la marine, ce qu'on appelle le matelotage, avec tous ces nœuds, le nœud de cabestan, ce nœud d'arrêt pour les cordes épaisses, le nœud plat utilisé pour attacher deux cordes ensemble, ou le nœud de chaise utilisé pour former une boucle fixe à l'extrémité d'une corde et facile à défaire après avoir supporté une charge lourde. Et tout comme les marins d'ailleurs, il y a des mots qu'on ne doit pas dire, ce qu'on appelle les fatales, entre autres le mot « corde ». Car sur un bateau, chaque corde avait un nom spécifique et le mot « corde » était, lui, réservé et utilisé pour pendre quelqu'un. Alors, les mots qu'on emploie à la place, c'est « fil » ou « bout ». Alors, Blandine vient de nous parler de ce qu'il y a au-dessus de la scène, mais il y a aussi ce qu'il y a en dessous, dans les étages qui sont sous la scène, ce qu'on appelle les trappes et les tampons. Les trappes étant ces ouvertures dans le plancher de la scène qui permettent aux artistes de faire des apparitions ou des disparitions soudaines. Les tampons étant les dispositifs mécaniques ou pneumatiques qui permettent de faire bouger des éléments du décor rapidement et silencieusement. Et si on n'utilise pas les mots « monter » ou « descendre », c'est que certaines scènes ont une légère pente afin d'établir un rapport idéal avec la salle, à partir du lointain, le point le plus éloigné pour les spectateurs, jusqu'à la face, c'est-à-dire la partie la plus proche du public. Cette scène, dite à l'italienne, permet au public, notamment celui situé à l'orchestre, en léger contrebas de la scène, de mieux voir les chanteurs et les danseurs au lointain. Et donc, En termes d'opéra, monter, c'est aller vers le fond de la scène, le lointain, et descendre, c'est se rapprocher du public. Et toute la magie de ce métier, c'est d'abord de travailler tous ensemble, entre le trac, lors d'une première, l'inquiétude maîtrisée face au danger, et le plaisir d'être partie prenante à part entière de la réussite d'œuvres sublimes qui se concrétisent lorsqu'on entend les applaudissements du public. Ça, plus les rencontres que ce métier occasionne. Eh bien, merci Blandine pour ce témoignage que j'ai repris dans l'interview que tu accordais à Charlotte Goupil-Lebray pour son podcast « Opéra mon amour ». Puis, parmi ce qui est suspendu dans les airs, comme par magie, il peut y avoir aussi des personnages. Et comme le soulevage des personnes sur scène est une tâche hautement spécialisée, cela implique une équipe technique spécialisée et formée à cet effet. Équipe dirigée par le chef machiniste, sous la supervision du régisseur général et du responsable sécurité. Alors vous vous doutez bien que chaque étape de la conception à l'exécution est rigoureusement planifié et contrôlé pour garantir à la fois un bel effet artistique, mais surtout la sécurité des artistes. Alors les mousquetons, les baudriers, tout est vérifié et revérifié. Mais parmi les techniciens, il n'y a pas que les cintriers et cintrières manipulant les décors au-dessus de la scène, ni ceux responsables du soulevage des artistes, hein, vous en doutez bien. Il y a aussi les métiers de ceux qui gèrent la fumée, les brouillards, la neige, le vent, les tempêtes, et puis les feux sur les scènes des théâtres et des opéras. Ceux qu'on appelle les techniciens des effets spéciaux, ayant une connaissance scientifique et technique approfondie, avec à leur tête les régisseurs d'effets spéciaux. Ceux qui sont responsables de la conception, de l'installation et de la gestion des effets sonores et visuels, en respectant les contraintes techniques et de sécurité pour enrichir la scénographie et réussir à captiver le public. Si j'avais eu plus de temps, nous aurions pu partir pour découvrir ensemble qui sont et que font ces techniciens des effets spéciaux, mais je me contenterai juste de dire deux mots sur les formations nécessaires pour prétendre à ce genre de métier. Car pour devenir technicien en effets spéciaux, plusieurs formations sont nécessaires, couvrant différents aspects de ces effets spéciaux, notamment les effets pyrotechniques, les effets numériques et les techniques de fabrication d'accessoires. Pour tous les effets spéciaux de scène concernant la pyrotechnie d'intérieur, ils ont besoin d'une grande connaissance de nombreux produits, les poudres combinées, les pâtes à feu, les torches. Plus ça va, plus il y a besoin aussi de concepteurs techniciens pour les effets spéciaux numériques et la création de scènes en 3D, intégrant des éléments infographiques et des effets visuels. D'autres formations sont parfois nécessaires en ce qui concerne les effets spéciaux eau, air, feu. Alors comme me le faisait remarquer Alice Dussardier, régisseuse, elle aussi, c'est surtout l'eau qui pose un problème plus que le feu, surtout pour éviter toutes les infiltrations qui seraient extrêmement dangereuses vu la somme de connexions électriques se trouvant sous la scène. Et toutes ces formations permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans d'autres domaines que l'opéra, tels que le cinéma, la télévision, la publicité ou l'événementiel. Puis, tout en préparant cette émission, j'ai reçu aussi le témoignage assez surprenant de Viviane Genoc, 28 ans, alternante au service électricité de l'Opéra Comique et fille de deux musiciens professionnels, plus connus sur Instagram sous le nom de Petite Renarde Opéra, un compte de vulgarisation de la Petite Renarde dont je vous laisserai aussi le lien Instagram sur l'article accompagnant le podcast de cette émission. Je vais vous dire ce qu'elle me disait, ouvrant ainsi un autre regard sur ces métiers de l'opéra, mais pas que. On dit de l'opéra que c'est un art total, souvent en pensant au fait qu'il réunit tous les arts majeurs de l'Occident, le théâtre, la poésie, la musique, la danse, la peinture, la sculpture, au travers des accessoires et des décors, l'architecture aussi avec la construction des décors, et aujourd'hui même la projection vidéo. On dit moins souvent que c'est un art total parce qu'il réunit plus encore que des formes d'art, un ensemble faramineux de corporations professionnelles différentes. En plus des artistes que je viens de citer, il est aisé d'oublier les cohortes techniques et administratives, machinistes, techniciens lumière, son et vidéo, habilleurs, costumiers, régisseurs, coordinateurs, administrateurs, équipes de propreté, de sécurité, d'accueil. Autant de personnes qualifiées, professionnelles, assidues et passionnées qu'on laisse encore aujourd'hui dans l'ombre, par habitude plus que par réel choix, dit-elle, et certains préfèrent. Les profils qu'on trouve à l'opéra sont plus que multiples. Ils sont, pour ainsi dire, infinis. Souvent, remarque tout aussi valable au théâtre en général, c'est le grand lieu de rencontre des maladaptés. Incapables de se plier à un environnement de travail considéré normal, révolté, trop étrange, repoussé, ou encore ceux qui n'ont pas su traverser le terrible tamis du système éducatif. Les trop passionnés, les fondus de musique ou d'art, qui ont détesté le monde académique, des repris de justice, les hyperactifs, les autistes, les multidis, ces individus qui présentent une combinaison de troubles tels que les dyslexiques, les dysgraphiques, les dyscalculiques. On est presque surpris de cette diversité la première fois qu'on y est confronté. Et puis, si vous êtes un peu comme moi, vous entrez dans le club et vous vous rendez compte que si vous y travaillez, foi d'électricienne, c'est que vous n'êtes pas câblé comme tout le monde non plus. C'est un sentiment merveilleux de réaliser qu'on trouve une forme de famille recomposée dans ces métiers, après avoir, pour beaucoup d'entre nous, été rejetés par le système global qui nous entoure. Ce n'est pas pour dire que ces métiers sont faciles, ces fameux métiers passion, si agréables à vivre. Que nenni. La vraie définition, selon moi, d'un métier passion, c'est qu'il dégoûterait n'importe qui ne serait pas directement passionné. N'abordons même pas les questions qui fâchent comme les inégalités et discriminations encore subies par les femmes. Pour beaucoup, stress intense, capacité d'adaptation et d'apprentissage, goût pour l'innovation, sont des caractéristiques communes aux intermittents. Beaucoup d'ailleurs travaillent sans passion autre que leur spécialisation technique, alliant des postes au théâtre, à l'opéra, au cinéma, en concert ou encore sur des événements prestataires. C'est le mouvement qui les anime, le changement, l'anti-routine de l'intermittence. Sont-ils moins passionnés pour autant? En tout cas, ne fût-ce que pour un jour, l'opéra réunit. À l'opéra comique, tous les employés ont droit à au moins une place gratuite à chaque général. La salle est souvent comble et on se félicite au travers des barrières du métier, de l'âge, du genre, des origines et de la richesse d'avoir participé à l'élan créateur du spectacle. Et le théâtre devient notre petit monde parallèle à nous. All the world's a stage, a dit Shakespeare. Le monde entier est une scène de théâtre. En tout cas, la scène de théâtre est notre monde à nous. Merci Viviane Genoc, alternante au service électricité de l'opéra comique, pour ce témoignage qui nous donne à voir, une fois de plus, d'une manière encore plus précise, tout ce qui se passe techniquement et physiquement. Ça, nous l'avions déjà partiellement vu, mais humainement, derrière ces rideaux qui se baissent et ces lumières qui s'éteignent. Et comme il y aurait tant à dire sur tous ces métiers de plateau, abordons la seconde partie avec les professions dites artistico-techniques. Pour la seconde partie, artistico-techniques, dont font partie les maquilleurs et les coiffeurs, entre autres, je vais commencer avec Alain Folgoas, maquilleur, qui, après l'avoir contacté, m'envoyait un petit papier pour nous permettre de mieux comprendre. Car, bien qu'invisibles sur scène, ils sont pourtant indispensables. En préambule, il me faisait remarquer la différence qu'il y avait entre le maquillage esthétique et de spectacle. Le premier étant souvent pratiqué en institut par des esthéticiennes, mais aussi en studio pour sublimer la beauté des stars. Le second consistant à réaliser des maquillages de composition, c'est-à-dire composer et transformer le visage de l'artiste en celui du personnage, sous le regard du metteur en scène. Un bon responsable des maquillages doit savoir gérer selon les préférences et les compétences des membres de son équipe. Les maquillages de composition consistent, surtout pour les pièces de répertoire classique ou lyrique, à rajeunir les artistes plus âgés ou peindre des vieillards sur des jeunes gens. On transformera aussi des femmes en jeunes garçons, tel le chérubin du mariage de Figaro. Et toutes ces transformations sont faites par les maquilleurs. Puis, ils ne doivent pas seulement savoir travailler avec des fards, comme pour la beauté. Ils doivent savoir utiliser d'autres techniques, telles que poser des postiches, barbe, moustache, sourcils et des perruques. La plupart du temps, ces postiches sont faites chez un perruquier en ville, mais autrefois, ils étaient fabriqués par un personnel dédié dans un atelier du théâtre, ce qui est encore rarement le cas dans certains théâtres en France. Alain me signalait que les perruques et les postiches faciaux implantés sur du tulle, cheveux par cheveux, étaient un travail long, fastidieux, mais passionnant, et qu'il fallait une semaine à 10 jours pour implanter une perruque. Après cela, le coiffeur devant la mettre en forme. Et toutes ces transformations sont faites par les maquilleurs, avant le spectacle et pendant parfois s'il y a des retouches à faire. Puis maintenant, sous l'influence du cinéma, on ne se contente plus de maquillage peint sur les visages. Il faut du vrai relief. Donc, recourir à des prothèses, comme le nez de Cyrano, ou des masques, comme celui qu'Alain Folgoas avait fait pour la nuit de Barbizon au théâtre Édouard VII, et qui lui valut le grand prix Renaud Barrault, le seul remis à un maquilleur. Mais, en parlant de prothèses, il faut savoir les poser, bien sûr, mais savoir les faire. Et que c'est un travail long et compliqué. Il faut souvent être à plusieurs, à travailler ensemble pour mouler l'artiste, tirer une empreinte en plâtre, sculpter les transformations voulues sur ce visage en plâtre, mouler ses sculptures entières ou, le plus souvent, par fragments, nettoyer les moules, y couler le produit de moulage, latex, mousse de latex, gélatine, silicone, selon les cas et les budgets. Après cela, il faut encore coller les pièces sur le visage de l'acteur ou du comédien, en dissoudre les bords dans la peau de l'artiste, avant de le maquiller avec des produits spéciaux appropriés, puis de compléter avec les éventuels postiches et perruques. De tels maquillages peuvent prendre entre 1 à 2 heures, voire plus. Et plus il y a des pièces collées, plus le démaquillage est long. Le maquilleur doit, là encore, s'en occuper de bout en bout. C'est son métier et sa responsabilité. Vous comprenez aisément, me disait-il, que pour être prêt à faire tout cela, les maquilleurs doivent l'avoir appris. Soit, comme autrefois, sur le tas, c'est-à-dire auprès des chefs maquilleurs expérimentés, soit actuellement en école. Malheureusement, les écoles, disant ne pas avoir les moyens de payer convenablement ces chefs expérimentés, engage souvent d'anciens élèves qui enseignent pour peu cher, mais qui, sans expérience, n'ont pas grand-chose à transmettre. Alain pense qu'un gros effort devrait être fait dans ce domaine, en ne recrutant que des maquilleurs d'expérience, pour garantir la transmission d'un véritable savoir. On pourrait faire appel aussi à des maquilleurs dont la carrière, déjà bien remplie, ne demande qu'à transmettre leur expérience. C'est une pratique très courante aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, et qu'il faudrait que cela le devienne aussi en France. Là encore, je vous laisserai le lien de son site sur l'article accompagnant le podcast de cette émission. Et comme je l'évoquais précédemment, qui dit maquilleur dit coiffeur. Et là encore, pour répondre aux rêves d'un metteur en scène, les coiffeurs, ces artistes artisans, font souvent un travail d'une minutie fantastique au service de l'éphémère. Travailler comme coiffeur d'opéra ou de théâtre implique une combinaison de créativité artistique, de compétences techniques pointues, capables de garantir que chaque coiffure reste en place pendant toute la durée de la représentation, entre les perruques, les postiches, les colorations, plus une rigueur organisationnelle et une adaptabilité aux horaires et aux contraintes du spectacle. Et pour que le personnage prenne complètement vie une fois maquillé et coiffé, il doit être habillé. Et là, trois professions peuvent intervenir, dont une qui ne parlera peut-être pas aux plus jeunes. Là où les costumiers, là où les couturiers et les modistes. Alors pour résumer, avant de rentrer dans les détails, on peut dire que les costumiers travaillent en étroite collaboration avec les couturiers et les modistes pour créer les costumes sur mesure, en suivant les maquettes et les indications du metteur en scène, avec une organisation similaire à celle de la haute couture. Le costumier est le concepteur principal du vestiaire d'une production. Il élabore les maquettes qui servent de référence aux ateliers de l'opéra. Avant la première, il présente ses maquettes aux ateliers afin qu'ils puissent budgétiser les matériaux et les heures de travail nécessaires. Car les productions théâtrales et opératiques fonctionnent souvent avec des délais serrés et des budgets malgré tout limités, ce qui impose une planification rigoureuse et des solutions créatives. Le costumier travaille souvent en co-construction avec les couturiers, transformant le vêtement en costume adapté aux exigences scéniques, adaptation aux exigences musicales. Les costumes doivent permettre aux chanteurs de respirer correctement, de projeter la voix et de bouger librement, sans gêner la technique vocale, sans oublier la durabilité et aussi la rapidité de changement, car les spectacles peuvent comporter de nombreux changements de costumes en peu de temps. Les pièces doivent donc être robustes et faciles à enfiler ou à retirer. C'est là qu'interviennent les couturiers pour les patrons et les coupes, pour ajuster les conceptions initiales en tenant compte de la morphologie des artistes. Et le modiste, me direz-vous? Eh bien, le modiste se concentre sur les accessoires de tête et de coiffure. Dans l'atelier de l'opéra, il s'occupe des chapeaux et des coiffes. Je vais essayer d'expliquer ce qu'est un modiste pour les plus jeunes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ce terme ou qui associent ce terme à la mode. Eh bien, le modiste d'opéra ou de théâtre, c'est la personne qui assiste aux répétitions, de la générale piano, où l'artiste porte son costume pour la première fois, jusqu'à la répétition générale, qui fait essayer tous les chapeaux, les képis, les bandeaux, les couronnes, pour ajuster les tailles, vérifier le confort des artistes, et éventuellement d'expliquer aux habilleuses comment ils se portent. L'opéra et le théâtre, explorant souvent des époques très variées ou des univers imaginaires, cela exige une recherche très approfondie et une création de pièces sur mesure. En résumé, la création de costumes à l'opéra repose sur une synchronisation entre le costumier qui s'occupe de la conception, le couturier pour les patrons et les coupes, le modiste qui fait essayer tous les chapeaux, les képis, les bandeaux, les couronnes pour ajuster les tailles et vérifier le confort des artistes, comme je vous le disais. Puis, j'aurais pu rajouter, le cordonnier pour les chaussures et le chargé de production, coordination. Alors, je n'en avais pas encore parlé, de celui qui assure la cohérence entre le concept artistique et la réalité technique, passant par la maquette et la présentation du costume au créateur et aux ateliers, le budget en estimant les coûts et les ressources, la fabrication de la réalisation d'une toile jusqu'au costume final, puis l'assemblage, c'est-à-dire l'intégration des accessoires, chaussures, chapeaux, bijoux, par les différents artisans, jusqu'au dernier essayage avec les ajustements finaux avant la première. Et tout ce travail est orchestré par le chargé de production qui assure la cohérence entre le concept artistique et la réalité technique. Et comme les objectifs de cette émission étaient triples, avoir et partager un coup de cœur pour ces métiers de l'ombre, des opéras et des théâtres, pousser un léger coup de gueule contre l'invisibilité de ces métiers, pourtant indispensables, et le cas échéant, comme je le disais en préambule, provoquer quelques vocations ou curiosités pour ces métiers passions. Et sous ce rapport, sachez qu'il existe un CAP, métier de la mode, chapelier modiste, et que c'est le diplôme officiel qui forme les artisans à la chapellerie et au métier de modiste. Le modiste étant davantage un créateur de chapeaux, à l'inverse du chapelier qui, lui, fabrique plutôt les chapeaux utilisant différents matériaux hein, tels que le feutre, la mousseline, le lainage, la fourrure, la paille ou le sisal. C'est ainsi que travaillent ensemble costumiers, couturiers, perruquiers, décorateurs, peintres, électriciens, sculpteurs, voiliers, machinistes, éclairagistes, cintriers et d'autres que j'oublie certainement. Non, de métiers qu'il aurait fallu tous féminiser pour être au plus proche de la réalité, avec chacun des itinéraires différents. Et comme le disait Charlotte, quand l'intelligence collective se met en œuvre, ça décuple les forces individuelles, à condition que soient réunies toutes les modalités pour l'émergence de cette intelligence collective. D'où l'importance de ne jamais sous-estimer la force et la puissance que peuvent générer de bonnes relations humaines, dans toute leur diversité. Et nourrir des relations humaines est de loin plus profitable pour l'épanouissement du spectacle vivant que l'ambition de produire le plus grand ou le plus bel opéra dans les plus beaux endroits du monde. À mon avis peut-être pas partagé par tous, mais le spectacle vivant doit vivre, et pour vivre, il doit savoir se renouveler, malgré les difficultés que connaît actuellement la culture. Et comme je le disais dans l'émission sur les Indes Galantes, où je faisais référence à M. Léo Ferré qui chantait « La musique est dans la rue, nous la voulons », le théâtre et l'opéra doivent peut-être eux aussi descendre dans la rue. Quand on voit les millions qu'ils sont capables de foutre en affiches publicitaires placardées dans nos rues pour nous vanter un fast-food ou une lessive, on est en droit de penser qu'on pourrait mettre un peu de pognon pour que la culture descende au pied de nos immeubles ou dans les carrefours de nos campagnes. Même si je dois le reconnaître, de belles initiatives déjà sont prises. Et que, quel que soit le terme retenu, hybridation, inclusion ou métissage, le monde changeant, il va falloir sérieusement penser à accélérer et à développer toutes les formes d'évolution que doit connaître le spectacle vivant, de peur qu'il ne soit englouti par une somme de divertissement et de plaisirs solitaires, s'offrant à chacun d'entre nous au travers de nos écrans et de nos réseaux. Il en est de la responsabilité de chacun d'entre nous, spectateurs, intellectuels, poètes, musiciens, chanteurs, écrivains, scénaristes, hommes, femmes et enfants, soit par nos fréquentations, soit par nos productions, soit par nos créations, d'être plus réactifs, plus engagés, pour que perdurent toutes ces formes d'art que nous souhaitons accessibles à tous. Réflexion personnelle qui ne m'empêche pas de voir que cette émission tire à sa fin et que le but de ce programme était de mettre un coup de projecteur sur certaines professions du spectacle. Voilà quelques-uns des métiers qui s'activent dans l'ombre et que l'on ne voit pas à l'œuvre en tant que spectateur. Et j'aurais pu souligner aussi un autre aspect du travail de régisseuse. Alors je le dis au féminin car c'est par l'intermédiaire de Charlotte, qui fut ma correspondante permanente pour réaliser cette émission, qu'un parallèle m'est venu à l'esprit. C'est celui des concierges des grands hôtels. Car on peut souligner que parmi les tâches ou les services attachés à cet emploi, les chanteurs savent qu'ils peuvent s'adresser aux régisseurs s'ils ont besoin de conseils, que ce soit pour trouver un bon restaurant, un bon magasin, ou pour trouver un logement plus proche du théâtre. Mais aussi les coordonnées d'un bon ostéopathe, d'un bon ophtalmo, d'un bon dentiste. Et c'est volontairement que je me suis contenté de monter cette émission autour d'une régisseuse de scène d'opéra, avec et à cause de sa particularité par rapport à ses confrères d'autres disciplines, à savoir être dans l'obligation de pouvoir lire une partition. Mais j'aurais pu le faire ou y inclure du moins les régisseurs ou régisseuses de théâtre, ayant une amie qui a travaillé 2 ans en formation à la Comédie Française, grosse maison s'il en est. J'aurais pu aussi me glisser dans les coulisses des plus grandes tournées musicales pour rencontrer les régisseurs de concerts qui sont à la fois les babysitters, couteaux suisses et confidents des plus grandes stars, comme le raconte si bien le podcast d'Arte Radio, Backstage dans l'ombre des stars. Podcast d'Arte Radio où vous retrouverez aussi cette émission. J'aurais pu aussi avoir une pensée pour les 2 ou 3 retraités qui ont bénévolement taillé et cousu le beau costume patchwork d'Arlequin, ainsi que le fils du boulanger qui est venu installer 2 projecteurs dans la salle des fêtes, pendant que son pote dessinait sur des cartons de grandes flèches indiquant le parking et mettant la dernière couche de peinture sur le sabre en bois taillé par son père. Dans tous ces cas, vous retiendrez les acteurs, les chanteurs, les musiciens, tous ceux que vous avez vus, mais vous occulterez souvent le travail qui s'est fait en amont. Et j'espère qu'après cette émission, les milliers d'auditeurs qui m'écoutent auront, demain, un autre regard, une autre attention. J'espère aussi que, quelle que soit la nature du spectacle, et quelle que soit la structure et les moyens, vous penserez à les faire monter sur scène, s'ils sont là, ou du moins les citer et les remercier, s'ils ne sont pas présents, tous ces travailleurs de l'ombre, sans qui rien n'aurait pu se faire.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beg.
Voilà une fois de plus comment s'achève cet avant-dernier numéro de la saison, avec le plaisir d'avoir essayé de donner un peu plus de visibilité à toutes ces personnes essentielles. Et c'est un euphémisme que de dire ça, car c'est indispensable le qualificatif qui leur convient le mieux. Merci bien sûr à Charlotte, la régisseuse de scène de l'Opéra National de Lyon, sans qui ce programme n'aurait pas eu lieu. Merci aussi à tous ceux qui prêtèrent leur concours pour enrichir cette émission. Merci à vous tous qui m'avez écouté durant cette heure et que j'engage fortement à laisser commentaires et critiques sur le site orinoco-podcast. Site qui vous permettra entre autres de retrouver la liste complète des thèmes musicaux qui nous accompagnèrent durant cette heure, mais aussi de réécouter cette émission, la partager sur les réseaux sociaux si vous le désirez, et cerise sur le gâteau, de voir en photo la jolie petite frimousse de cette jeune régisseuse autour duquel s'articula cette émission. Quelques liens aussi figureront au bas de l'article accompagnant ce podcast, dont celui d'Opéra Mon Amour, le podcast indépendant de Charlotte Goupil-Lebré. Une fois de plus, en attendant de vous retrouver le mois prochain, je vous souhaite le meilleur à l'écoute de vos radios préférées, 48 FM, toutes les antennes de fréquence Mistral dans le Midi, Radio Margeride, et vous donne rendez-vous très bientôt pour un dernier épisode de cette saison qui, je l'espère, saura vous plaire. Un conseil, soyez-y. Ciao.